Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL 103.5 et ce matin nous écoutons Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Bonjour Christine.
Bonjour Francis au micro, bonjour Francis à la régie.
Voilà, bonjour à vous deux. Et ce matin Christine, nous parlons des femmes savantes, l'avant-dernière pièce de Molière à vrai dire.
Oui,
puisque
oui,
elle date de 1672, juste avant... Avant le malade imaginaire. Et ce spectacle nous arrive de la Comédie de Saint-Étienne, mise en scène par Christian Lambert. Benoît Lambert, pardon, pas Christian, justement. Benoît Lambert, qui est
le
directeur de la Comédie de Saint-Étienne, et se jouera donc.
Pas dans la grande salle, justement, au théâtre municipal de Colmar, le jeudi 5 février à 19h, le vendredi 6 février à 20h et le samedi 7 février à 18h. Mais c'est bien au théâtre municipal et pas dans la grande salle. La durée estimée du spectacle est de 2h. Et vous retrouverez dans cette production, donc, qui doit beaucoup à la Comédie de Saint-Étienne, puisqu'il y a énormément d'anciens élèves qui jouent dans ce spectacle, vous retrouverez notamment Lina Al-Sayed, que vous avez pu voir dans la Phèdre de Mathieu Crousiani, enfin de Racine bien sûr, mais mise en scène par Mathieu, dans le rôle de nonne.
Oui, vous retrouverez d'ailleurs des gens comme Vérité, etc., des gens que vous avez déjà vus dans L'Avare, puisque en 2023, je crois,
oui, c'est ça.
Vous avez vu la mise en scène de L'Avare par Benoît, non pas Christian, par Benoît Lambert, et... nous allons peut-être quand même évoquer le contenu de cette pièce, parce que elle n'est pas tellement jouée, même si en ce moment elle est jouée en même temps à la Comédie Française.
Oui, dans une mise en scène d'Emma Dante, ce qui n'est pas rien. Oui, ouais, vous pouvez voir peut-être les photos.
Emma Dante que vous connaissez maintenant, parce que vous l'avez vue assez récemment. Et donc, une pièce... disons, autour de laquelle il y a toujours eu des controverses. D'abord parce que ces femmes savantes sont-elles stigmatisées ? Ces femmes savantes sont-elles au contraire présentées comme un avenir, etc., etc. Et donc, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'abord d'une famille. C'est une pièce sur une famille bourgeoise, où, disons, trois femmes de cette famille, la mère...
Oui, Philaminte.
Philaminte, la belle-sœur de la mère, Bélise, et l'une des filles, Armande, sont sous le charme d'un... Alors, comment l'appeler ? Une sorte de gourou, mais un représentant de cette pédanterie que Molière met en cause et dont il se moque depuis fort longtemps, depuis les précieuses ridicules, etc.
Oui, donc un personnage qui s'appelle...
Qui s'appelle Trissotin.
Voilà. Oui, Trissotin, ce qui veut dire trois fois sot. Et c'est vrai que pour la petite histoire, on peut considérer les femmes savantes un petit peu comme une pièce à clé, puisque autour de ces pédants, Molière s'en prend à des gens qui étaient connus à l'époque et bien sûr que nous avons complètement oublié, c'est-à-dire par exemple l'abbé Cotin, qui était justement un poète et qui s'en était pris à Molière et aux comédiens en général. Et puis il y a un autre personnage de pédant dans la pièce qui s'appelle Vadius, qui est un helléniste dans la pièce. Et en fait, ça reprendrait un certain Ménage qui, lui aussi, s'en était pris à Molière. Donc, on peut considérer, et au départ, Trissotin d'ailleurs s'appelait Tricotin, donc l'allusion était directe. Donc, il y a ces fameux pédants, et pour une part, la pièce est aussi une charge contre ces personnages.
Voilà, alors il y a donc ces trois femmes, sous l'influence de ce Trissotin, et puis il y a le père
qui s'appelle Chrysale,
qui s'appelle Chrysale, qui lui, au contraire, représente au fond la dimension complètement matérielle. Si les trois femmes sont poussées vers le haut, vers l'esprit, le père, lui, il est, disons, dans la matérialité la plus brute. Il pense quand même fortement que les femmes doivent rester à leur place et c'est le ménage qui
oui, et notamment est à leur la place. Cuisine. Alors, voilà. C'est pas tout à fait Kinder, Küche und Kirche, hein, les enfants, la famille et l'église, mais c'est en tous les cas la bonne soupe, ouais. Puisqu'on peut considérer que dans la pièce, il y aurait une opposition entre Chrysale, qui est partisan de la bonne soupe, et sa femme, Philaminte, qui, elle, est partisane du beau langage.
Voilà, cette différence entre manger et penser. À côté de Chrysale, il y a un couple qu'il s'agit de marier.
Oui, parce que comme dans toutes les comédies, bien sûr, voilà, le centre
on est,
de la comédie,
on est autour
d'un mariage.
Il s'agit de marier la fille cadette, Armande étant la plus âgée, la fille cadette qui s'appelle Henriette, et Henriette a un amoureux. Et cet amoureux s'appelle Clitandre. Alors Clitandre n'est pas nécessairement de la bourgeoisie, il est plutôt de la noblesse.
Oui, c'est un courtisan et c'est l'honnête Clitandre, mais au sens où effectivement il est le seul aristocrate dans la pièce, puisque tous les autres sont des bourgeois.
Alors Clitandre avait d'abord été amoureux d'Armande. Mais Armande, prise dans les hautes sphères du langage et de la poésie, l'a rejetée.
Oui, parce qu'elle refuse en fait la maternité et la sexualité par conséquent, puisqu'elle préférerait presque en rester à des prémices, à un amour galant, et sa froideur, elle a été considérée comme froide par Clitandre, et donc Clitandre s'est rabattu d'une certaine façon sur la plus jeune des filles.
On peut dire qu'il s'est rabattu sur Henriette, si on veut, mais enfin bon, pour l'instant il semble vraiment très amoureux d'Henriette, et Henriette lui convient mieux, parce qu'Henriette elle aussi trouve que la sexualité c'est bien mieux que toutes ces sublimations.
Parce qu'elle va défendre, et dans cette première scène qui est fameuse, voilà. On voit les deux sœurs se disputer.
Les deux sœurs.
C'est sur les deux sœurs qui se disputent. Elle va effectivement défendre la maternité et les joies de l'amour et de la conjugalité d'une certaine façon.
Bon, nous avons d'un côté donc on va dire le bas et de l'autre côté le haut, c'est-à-dire d'un côté les pulsions les plus triviales et de l'autre côté la sublimation la plus importante. Mais dans cette famille, ce n'est pas le père qui porte la culotte, et donc c'est au contraire la mère. C'est-à-dire il y a un conflit du coup entre le père et la mère. La mère voudrait que Henriette se marie avec Trissotin. Et c'est le conflit de la pièce, d'une manière ou d'une autre.
Oui, d'ailleurs, le conflit, c'est peut-être le conflit principal, mais en fait, la pièce fourmille de conflits. Il y a un véritable jeu de massacre, puisque le père et la mère sont en conflit. Les deux sœurs, nous l'avons dit, Henriette et Armande, sont en conflit aussi. Sont en conflit Clitandre et Trissotin, qui sont les prétendants
à
Henriette. Et donc, en fait, il y a vraiment des conflits à tous les niveaux dans cette famille, véritablement.
Bon, la famille est conflictuelle, mais il y a un conflit plus général entre le corps et l'esprit. Il y a aussi un conflit d'époque entre, d'une part, ceux qui sont on est quand même dans un patriarcat immense, enfin.
Oui, parce que.
Imaginez qu'on est en plein règne de Louis XIV, le statut des femmes n'est pas du tout enviable d'une manière ou d'une autre, même si, depuis un moment, eh bien, les femmes s'émancipent, surtout dans la littérature, en particulier dans l'écriture aussi, et que cette émancipation, au fond, de la femme, est une question à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Et bon, moi, pour ma part, par exemple, j'ai rarement fait étudier à mes élèves, lorsque j'étais professeur, les femmes savantes, parce que j'ai toujours eu une espèce de gêne sur l'interprétation de la pièce. Est-ce que cette pièce est misogyne, ou est-ce qu'au contraire, elle va valoriser le désir d'émancipation ? Dans l'école des femmes, c'est quand même assez net, et pratiquement dans toute l'œuvre de Molière, que Molière a toujours pris quand même fait et cause pour les femmes dans leur désir de lutter contre une forme d'oppression, et dans l'école des femmes c'est très net, dans les femmes savantes c'est moins net, mais il ne faut pas oublier que les spectatrices de l'époque de Molière étaient souvent justement les femmes savantes, ces fameuses femmes que tu évoques qui étaient plus lettrées, qui tenaient salon, on peut penser à Madame de Sévigné par
Puis
exemple,
Armand ou à Béjart, femme qui tenait la
troupe de aussi, Molière. Bien sûr. Alors elle vient de mourir justement, hein, mais on peut penser que en fait l'excès, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même une grande comédie en 5 actes qui reprend des personnages qui ont une forme de fanatisme dans leur désir de science. Ces femmes, en fait, elles sont excessives.
Oui, alors elles sont excessives, c'est ce qui fait rire d'ailleurs. Donc oui. Molière va s'en donner à cœur joie parce qu'il y a la grande scène qui est le début de l'acte 3 où les trois femmes se pâment devant un sonnet totalement stupide de Trissotin. D'autant plus que Philaminte, donc la mère, venait déjà de congédier Martine.
Ah oui, Martine qui représente laquelle, un peu le monde de la farce.
Laquelle,
oui.
Pauvre Martine parle le patois, oui. Et elle ne supporte plus ce langage, alors que Martine est une excellente cuisinière. Donc raison de plus pour opposer la cuisine au beau langage, bon, comme
oui,
tu disais. Mais la grande scène des trois femmes qui se pâment, effectivement, montre bien que les femmes sont non seulement dans un excès, mais totalement, je dirais, à côté de la plaque, on va dire ça comme ça, parce qu'elles sont totalement subjuguées par des bêtises,
oui,
d'une manière ou d'une autre.
Oui,
donc là, on n'est pas dans le savoir, on est dans l'ignorance même, alors que le savoir, c'est encore autre chose. Alors le savoir intervient de temps en temps, parce que, Trissotin ne dit pas que des bêtises, parce qu'il les initie aussi à la science. Et à l'époque, il faut dire que le savoir, c'est la science. Enfin, Descartes d'un côté, puis Descartes était entouré de femmes. Il a même été être le précepteur d'une manière ou d'une autre, le pédagogue de la reine Christine de Suède. Et les femmes, à ce moment-là, en tout cas dans la haute société, essayent d'avoir accès à un savoir qui est un savoir scientifique, et pas simplement, évidemment, le beau langage. La manière dont Molière se moque du beau langage est une chose, mais ce qui est en jeu, c'est quand même le savoir. Que les femmes aient elles aussi accès au savoir. Et ça, c'est un autre combat. On peut moins se moquer de ça.
Bien sûr. Et en fait, on sent aussi dans la pièce une influence très grande des discussions philosophiques qui existaient à l'époque. Alors, peut-être caricaturale parfois, hein, l'opposition entre la matière et l'esprit, ça peut apparaître comme une caricature peut-être dans son excès du dualisme cartésien. Et en fait, il y a quand même une matière philosophique, et on voit bien que Molière maîtrisait parfaitement les discussions philosophiques de son époque et les théories philosophiques qui avaient cours, puisque lui, on le rapproche bien sûr de Gassendi, de La Motte Le Vaillée, avec l'idée qu'il soit
des atomistes.
Alors après, dans la pièce, c'est un petit peu étrange parce que justement, toutes ces questions sont traitées sur le mode de la comédie.
Oui, mais bon, l'enjeu est quand même de rire et de rire, parce que finalement, le ventre l'emporte sur les esprits éthérés.
Oui, alors
d'une manière ou d'une autre.
Alors Ce que je voulais dire aussi, c'est que en revenant sur l'idée de la bonne soupe, de Chrysal qui est du côté de la bonne soupe, faut pas oublier quand même que dans l'école des femmes, on entend que la femme est le potage de l'homme. Donc cette question effectivement matérielle, de la nourriture, de l'argent aussi, parce qu'il faut pas oublier que la pièce aussi, finalement, la question du mariage, c'est aussi une question de revenus et de réalisation financière dans le mariage, mais la question du patriarcat et de la femme considérée comme le potage de l'homme, c'est aussi de ça qu'il est question en fait en arrière-plan. Mais j'ai toujours eu, moi, du mal avec cette caricature, et je trouve que justement Benoît Lambert semble indiquer que les personnages sont plus complexes, sont pas caricaturaux, et que finalement ce qui est intéressant, c'est que chacun a des contradictions. Et que,
mais bon, que ce que subtil. Nous avons pas dit, c'est que bien sûr Trissotin, sous prétexte d'être amoureux d'Henriette, ne l'est pas du tout. Et ce qu'il veut, c'est au contraire avoir la dot.
Voilà.
Donc, par un subterfuge qui est classique chez Molière, mais qu'on ne vous dévoilera pas. Trissotin sera effectivement découvert dans ses manigances. Mais bon, ça sera la fin de l'histoire. Mais il n'empêche que peut-être les hommes sont aussi caricaturés. C'est-à-dire Trissotin déjà dans la manière dont il utilise ces compétences-là, ou en tout cas l'envie de savoir des femmes, pour, au fond, faire de l'argent. Mais le père aussi. Alors, la grande tirade du père, qui est assez intéressante, qu'on ressort parfois, qui effectivement...
renvoie les femmes à la cuisine.
Renvoie les femmes à la cuisine en tant que telle. La grande tirade du père, si on la prend comme telle, parce que ce sont eux qui vont gagner, puisque le mariage entre
Henriette et
Clitandre va se faire. Le père donc aura gagné sur la mère. Le patriarcat se consolide dans cette affaire-là, surtout parce que la justice à la fin viendra y rajouter une couche, mais il n'empêche que Chrysal est lui aussi d'une certaine façon ridicule. C'est-à-dire les hommes sont tout autant ridicules que ces femmes, parce que, disons, ce n'est pas peut-être l'envie de savoir ou l'envie très patriarcale de voir les femmes dans les cuisines qui importe, c'est la manière dont chacun est pris par sa passion ou par son affaire.
Oui, tout à fait. En même temps, je pense aussi qu'il ne faut pas trop caricaturer. Enfin, c'est ce que pense aussi Benoît Lambert, par exemple, pour Trissotin. C'est quand même, les trois femmes sont quand même des femmes lettrées, même si elles sont caricaturées dans leurs excès. Mais elles ont quand même une certaine culture. Alors, si Trissotin est trop ridicule, etc., on ne comprend pas pourquoi ces femmes sont d'une certaine façon intéressées autant par lui. Donc, dans le jeu, il va falloir trouver, dans la direction d'acteur, il va falloir trouver quelque chose qui fasse de Trissotin quand même quelqu'un d'un peu séduisant. C'est un peu la même chose que pour le Tartuffe. Si vous faites du Tartuffe vraiment une caricature de dévot, laid, etc., c'est beaucoup moins intéressant que si le Tartuffe a quand même une puissance de séduction.
Par contre, ce qui est quand même intéressant dans cette pièce, et là, c'est le dernier Molière, parce que là, il est dans l'art du langage véritablement.
Les Alexandrins.
Ce sont les Alexandrins, et c'est surtout la beauté du langage en général, puisque c'est une pièce aussi sur le langage, sur la beauté du langage, et sa simplicité et ce que, disons, le côté poétique un peu stupide peut avoir de négatif par rapport à une belle simplicité du langage. C'est-à-dire, on arrive quand même, par moment, les deux sœurs, par exemple, le premier dialogue qui est celui des deux sœurs est absolument magnifique.
Oui, bien sûr. Et cette question de la grande comédie en cinq actes et en vers, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Molière est un peu rejeté par Louis XIV. Bah,
il vient d'avoir un conflit avec Lully, et c'est Lully qui est privilégié. Bon, Molière est malade, très malade. Oui. Il a du mal à se mettre en avant sur la scène de Versailles.
Il y a une sorte de recul par rapport à ce qu'il pouvait espérer dans la collaboration avec le musicien Lully. Et là, il va donner quand même comme une sorte de salve extraordinaire ces Alexandrins magnifiques qui composent les femmes savantes aussi. Et donc, c'est vrai aussi que par rapport au travail d'acteur, c'est formidable aussi. Il y a un plaisir de la langue que l'on va retrouver dans cette pièce indéniablement.
Voilà, et ben écoutons un tout petit peu ce que tu as choisi, Christine.
Alors. On va écouter une chanson d'un groupe peu connu qui s'appelle Les Fémouses, et où il est question du désir de parité.
Spécialement dédicacée aux routières, aux cablières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscoutières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Dédicacé aux géologues,
psicólogo, sociólogo, sinólogo, filólogo, etólogo, grafólogo, arqueólogo, paleólogo, marinheiro, fermeiro. O costumeiro, o couturiero, o façonneiro, o gantiero, o lingeiro, o ménagère, o bichetiero, o secretaire, o romancier, o aventurière, vas-y. Continue la liste. Telefonista, machinista, economista, violonista, etalagista, paisagista, metalurgista, aquarelista, carreirista, archivista, jornalista e modelista. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices. Dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes. Aux historiennes, bohémiennes, grammairiennes, physiciennes, techniciennes, aux gardiennes, électriciennes, mécaniciennes, comédiennes, pharmaciennes, musiciennes, famousiennes. À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières, qui pour un travail égal, c'est lui qui font le mal. La qualification égale, touche-moi, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Vous écoutez Coup de théâtre sur Radio RDL 103.5, Coup de théâtre de la Comédie de Colmar. Et ce matin, avec Christine, nous parlons des femmes savantes, d'où d'ailleurs ce que vous venez d'entendre sur l'égalité et la parité entre les hommes et les femmes.
Oui, la revendication de l'égalité entre les hommes et les femmes de façon moderne. Alors ça pose tout de suite la question de bon, qu'est-ce qui fait qu'on va monter une comédie de Molière, monter un classique, c'est toujours d'une certaine façon mesurer les écarts entre l'époque de Molière, en l'occurrence ici, et la nôtre. Qu'est-ce que les femmes savantes a encore à nous dire peut-être aujourd'hui? Et Benoît Lambert prétend ne pas du tout chercher véritablement à une trouvaille sur l'école des femmes, sur les femmes savantes, ou d'actualiser au sens du plateau la pièce, mais il pense que cette pièce a encore des choses à nous dire aujourd'hui.
Oui, le projet en général de Benoît Lambert, mais c'était le cas déjà sur l'Avare, c'est de ne pas actualiser immédiatement. C'est-à-dire, il faut garder quand même le XVIIe siècle d'une manière ou d'une autre, parce que ça a été écrit pour des gens, en gros aussi pour la cour. Parce que
oui, tout à fait, pour un public d'aristocrates.
À ce moment-là, eh bien, Molière est quand même un très grand courtisan. Donc c'est à Versailles qu'il écrit, pour Versailles aussi. Mais ça nous concerne tous, ça c'est Molière, c'est-à-dire la capacité de nous parler encore aujourd'hui. Mais bon, on ne touche pas trop à l'époque, tout en laissant le spectateur libre de voir ce qui se passe par rapport à cette époque. Et par rapport à cette époque, je suis absolument certain, même aujourd'hui, que le conflit entre le savoir en général concernant les femmes et le pouvoir, leur pouvoir, d'ailleurs savoir est toujours lié au pouvoir, et le pouvoir que cela donne et qui a été pendant très très longtemps l'apanage des hommes, eh bien reste conflictuel dans notre société.
Oui, et on ne peut pas s'empêcher sans doute, quand on entend les deux sœurs se disputer sur faut-il préférer le mariage et les joies de l'enfantement à à l'émancipation que pourrait représenter l'accès au savoir et à la vie de l'esprit, on ne peut pas s'empêcher d'entendre d'une certaine façon un slogan actuel qui serait « Mon corps, mon choix ». Et Armande a beau être excessive, a beau apparaître comme frigide. D'abord, ce n'est pas le cas puisqu'on s'aperçoit qu'elle est quand même amoureuse de Clitandre elle aussi, même si elle a voulu donner des règles du jeu amoureux un peu conformes à la galanterie et à la préciosité.
Bon, il faut quand même dire qu'à l'époque, les femmes se battent pour, non seulement pour le savoir, mais pour un rapport un tout petit peu plus, tendre, d'où la carte du tendre d'ailleurs,
bien sûr, de la préciosité,
dans les relations sexuelles et amoureuses. Parce que, dans l'ensemble, disons que c'est le mâle qui prend et qui,
Oui, bien sûr, la femme
est
le potage de l'homme, hein.
Oui, c'est la femme est le potage de l'homme et qui est fondamentalement un prédateur. C'est-à-dire, ces femmes qui se battent, elles se battent d'une certaine façon pour exister un peu plus dans le rapport au désir,
oui,
dans l'ensemble.
Oui. Tout à fait. Et en fait, ce n'est peut-être pas d'ailleurs le seul écho aussi dans la pièce. Le Benoît Lambert, je crois, en nuançant les personnages, en montrant leurs contradictions, va aussi montrer que la question de l'intérêt matériel de l'argent est quand même importante. On ne veut pas divulgâcher la fin, même si...
Oui, mais parce qu'on est dans la bourgeoisie.
Parce que
le mariage encore est une affaire d'argent.
Une affaire d'argent, et pas ça.
Simplement d'amour. Alors, il faut quand même redire que cela se joue au théâtre municipal.
Oui,
ça dure à peu près
2 heures.
Le jeudi
5 février à 19h, le vendredi 6 février à 20h et aussi le samedi 7 février à 18h, ce qui peut permettre à un grand nombre de colmariens d'assister à ces femmes savantes. Et on est sûr avec Benoît Lambert que le texte de Molière sera parfaitement entendu dans le spectacle.
Oui, un théâtre à l'italienne d'ailleurs, qui correspond à ce qu'était jusqu'à un certain point le Palais Royal à l'époque. Alors, quelques mots quand même sur la scénographie, parce que toute la scénographie est faite avec des bibliothèques, évidemment, parce que le savoir est dans les livres et les bibliothèques contiennent les livres. Et donc, ce sont des bibliothèques séparées qui, au fond, tracent l'ensemble des moments scénographiques de la pièce.
Oui, puisque cette bibliothèque, bien sûr, se prêtera à des mouvements et va permettre effectivement de créer des espaces sur le plateau par son ouverture jusqu'à progressivement un peu la disparition quasiment de cette bibliothèque pour laisser la place vraiment au jeu des acteurs. Alors Benoît Lambert a le même collaborateur au niveau de la scénographie que dans L'Avare, il s'agit d'Antoine Franchet, et déjà la scénographie de L'Avare était particulièrement
parlante. On était un peu dans
aussi.
Du clair-obscur, si oui. Je me rappelle bien, le plus souvent il y avait quelque chose de Rembrandt comme ça dans L'Avare, alors il y aura peut-être quelque chose de ça, on
oui,
verra bien.
Oui, il me semble aussi qu'au sol il y a du noir et du blanc, enfin quelque chose d'un petit peu vertigineux. Alors donc une très belle scénographie, et il y a aussi un très joli travail sur les costumes. Quand on regarde les photos, on voit effectivement que ce sont les costumes qui rappellent le XVIIe siècle et qui sont très beaux, très chatoyants et qui peuvent faire de très très belles images. Mais je pense que l'essentiel du travail de Benoît Lambert est dans le travail de direction d'acteur et dans le travail sur l'Alexandrin, qui demande bien sûr toujours du souffle. Et...
Alors Molière, puisque la discussion que nous venons d'avoir dans la première partie était surtout autour de l'émancipation des femmes, et ce que Molière en dit, est-ce qu'il s'en moque, est-ce qu'au contraire, ce que pense aussi Benoît Lambert, il met les femmes en avant aussi, les femmes qui vont vers le savoir, c'est aussi... Alors il s'en moque d'un côté en ce qui concerne leur radicalisation ou
oui, il en fait des fanatiques à la
extrêmes.
Manière de toutes les figures qui sont extrêmes, que ce soit l'avare,
voilà.
Que
les extrêmes sont ridicules en ce sens-là, mais c'est aussi la tendance qui se maintient et qui est véritablement présentée. Alors, est-ce que Molière est misogyne, est-ce qu'il ne l'est pas? Peut-être ce sera à vous d'en décider et regarder la pièce, parce que à part ça, il y a quand même un immense plaisir du langage.
Oui, un énorme plaisir du jeu et de la comédie. Mais déjà, le simple fait de mettre des femmes comme héroïne principale d'une grande comédie en 5 actes, c'est déjà le signe d'une valorisation des femmes.
Eh bien, vive les femmes savantes et vive le théâtre.
Thank you.